Chapitre 9e. Un nègre et un perroquet. L'étonnement du jeune mulâtre n'avait pas été moins grand que celui de la marquise. Poussé par sa mère au pied de cet autel qu'il abordait humblement, forcé d'obéir à cette volonté qu'il ne se donnait pas même la peine d'approfondir, il n'emportait guère qu'une perception vague de tout ce qui venait de se passer. Devant la joie de Noémie, joie nouvelle chez cette mère, joie élevée, infinie, il n'avait conçu qu'un enchantement réel, celui de voir couler sur son front l'eau qui avait été puisée au fond baptismal pour l'enfant blanc de Madame de Langeais, d'approcher son genou du même coussin, d'entendre les mêmes paroles sortir de la bouche du prêtre. Sauvé par cet homme une première fois, il avait éprouvé un secret bonheur à le retrouver. Il l'aimait d'instinct. 3 degrés de la chapelle l'avaient rapproché de lui, et le balustre doré qui s'était fermé sur les acteurs de cette scène religieuse avait paru à l'enfant la porte du ciel. La veille, il n'envisageait Maurice qu'avec une sorte de frayeur respectueuse. À la sortie de l'église, il marcha presque son égal en voyant les noirs se ranger d'eux-mêmes devant Noémie, comme si elle eût accompli un acte surnaturel. La négresse le tint longtemps serré contre sa poitrine, qui battait avec violence. Le sourire sur les lèvres et les larmes dans les yeux, Noémie semblait murmurer en elle un chant d'allégresse intérieure. Elle-même lui tendit l'étrier quand il dut remonter en selle. Un baiser la récompensa de ce soin. Noémie, plus vaine que jamais de son enfant, le regardait comme une vierge altière du Titien regarderait Jésus. Cependant, à la berline, remorquant à sa suite un honnête carrosse des temps passés, où se trouvaient monsieur et madame l'intendante, laissait derrière elle les ormes de l'église. Avec quelle joie Saint-Georges retrouva-t-il les regards flatteurs de tous les habitants de Saint-Marc. Avec quel orgueil enfantin vit-il le soleil ruisseler à flots sur cet équipage dont il était le guide. Il continua à le maintenir en tête de tous les autres. La course n'était pas si rapide cependant qu'il n'eut le temps de s'apercevoir des louanges et des gâteries de Finette. Il l'entendait vanter derrière lui sa bonne grâce à cheval. Cette fille était de sa couleur, et à ce titre, elle lui devait protection. Elle causait de lui avec la nourrice, pendant que Madame de Langeais demeurait rêveuse au fond de la voiture. Monsieur Joseph Platon avait beau crier à son élève de ne pas aller si vite. Saint-Georges n'en tenait compte, et feignait de ne pas entendre. Noémie avait eu soin de mettre dans une des poches de sa casaque une gourde d'excellent vin. Quelques gorgées lui rendirent courage à demi-route. On arriva bientôt à la grille de la Rose. Joseph Platon ne fut pas peu surpris en approchant de voir plusieurs bandes de nègres en désordre. Les uns sautaient, d'autres criaient. Il y en avait qui éteignaient brusquement leurs torches. L'un d'eux s'approcha de lui, quand il descendit de sa monture, pour lui faire lire un papier semé de lignes rouges et de signes auxquels il ne comprit rien. Le gérant de l'habitation de la Rose se vit bientôt conduit à la chambre, ou plutôt à la prison dans laquelle il avait enfermé Zao. Là, il trouva M. Printemps qui verbalisait. Zao s'était enfui avec le vaudou pour les grands chaos, retraite ordinaire des Noirs Marrons. À la vue du maître d'hôtel remplissant par intérim les fonctions de haut justicier, M. Platon s'emporta beaucoup. Il demanda comment le captif avait pu scier si habilement les barreaux de la fenêtre. M. Printemps ne lui répondit qu'en lui remettant, avec un soupir, un de ces petits couteaux que les nègres nomment jambette, couteau semblable à une lime grossière par les brèches faites au tranchant de la lame. Le vaudou avait laissé une lettre à l'adresse de Noémie. Elle était en langue guinéenne. Joseph Platon en demanda l'explication à l'un des noirs, qui s'en fit de la sorte le traducteur. « Votre neveu Zao me charge de vous apprendre qu'il se sent né pour de grandes choses. Il a eu, cette nuit même, une vision de Dompette qui lui apparut dans sa prison et a détaché ses liens, à la condition qu'il deviendrait son serviteur. Pour cela, il était nécessaire à Zao de quitter les Blancs, et c'est ce qu'il a accompli à l'aide de Dompette et de moi. Après lui avoir imprimé son image sur le bras gauche, je l'ai dévoué à notre culte solennel. Vous ne le reverrez qu'au temps voulu. Adieu, fille et mère de ma tribu. Dompette vous protège. Pour vous consoler et vous redonner de la force, voici une tortue représentant un soleil sur sa carapace. Zhao m'ordonne de vous la laisser. » Sur le rebord de la fenêtre et auprès de la tortue de Zhao, on voyait encore les arêtes de poissons à l'aide desquelles le vaudou avait tatoué le jeune homme. Le sang du néophyte les arrosait. Il y avait aussi des taches de ce sang sur les nattes. Les noirs avaient écouté la lecture avec une admiration stupide. Ils croyaient voir Dompette, leur dieu, dans chaque recoin de la chambre. Noémie, prosternée aux pieds de Joseph Platon, ne protestait que d'une chose, c'est qu'elle avait été étrangère à la fuite de Zhao. Monsieur Printemps, assuré que le fugitif ne pouvait manquer d'être saisi, venait de mettre à sa poursuite plusieurs nègres et les molosses de la bananerie. Malgré l'obscurité, il espérait bientôt s'en rendre maître. D'ailleurs, la disette de vivres le forcerait bientôt à revenir sur l'habitation de la Rose pour obtenir sa grâce. Ainsi raisonnait le vénérable monsieur Printemps, faisant valoir en outre au gérant un motif de consolation très rassurant, suivant lui, c'est que Zhao, comme tous les nègres esclaves, était sans nul doute étampé sur le sein et que cette étampe indiquait le nom et la résidence de son propriétaire. Puis, il y avait eu chez lui vocation. Le jongleur l'avait catéchisé pendant un mois. Monsieur Printemps ne se dissimulait pas que le négrillon de 12 à 16 ans se vendait de 11 à 1 500 livres. Mais il serait arrivé pour Zhao tôt ou tard certains cas rédhibitoires, le mal caduc par exemple, autrement appelé mal Saint-Jean, maladie que les fréquentes illuminations du vaudou lui auraient donnée. En un mot, ce n'était point un nègre pièce d'Inde, un nègre dont la perte dut entraîner celle de 2 400 livres. Joseph Platon, malgré les beaux calculs du maître d'hôtel, dont il ne goûtait guère le raisonnement, demeurait encore stupéfait de l'aventure quand le domestique noir de Madame la Marquise vint l'avertir que la compagnie l'attendait et que la collation était finie. Le malheureux gérant de la Rose trouva en effet Madame de Langeais assise dans le grand salon, pendant que quelques jeunes officiers du Port-au-Prince multipliaient déjà leurs agaceries autour d'elle. Diverses tables de jeu étaient préparées autour de Madame de Langeais pour ses hôtes, qu'elle avait accueillis malgré sa fatigue, autant dans la crainte de s'ennuyer que par le désir de se former vite une cour. Après avoir proposé un biribi à un lieutenant de vaisseau et à Madame l'intendante, qui avait fini par s'en accommoder, elle avait arrangé un cabagnole entré à un conseiller du Port-de-Prince et le procureur de l'habitation de Bréda, appartenant à M. de Noé. Ses graves figures ne ressemblaient pas mal à une garniture de cheminée en magot de la Chine, mais il fallait bien que Madame de Langeais se contenta d'abord de ce qui lui tombait sous la main. Le bruit de son arrivée lui avait amené moins de papillons que de moustiques. Cependant, on parlait déjà autour d'elle de son attelage, de sa beauté, de son luxe. Ce n'était pas assez des camaïeux de sa berline, de sa doublure intérieure, d'un velours de la reine Lila, brodé en chenilles couleur de rose. Elle avait encore sur ses genoux un chat et une petite chienne gredine du plus beau poil du monde. Ménagerie princière, s'il en fut, mais dont Popo le singe était à coup sûr le roi. Et puisque ce nom de Popo intervient ici dans mon récit, je dois déclarer que ce charmant animal faisait le sujet de la conversation quand M. Platon entra. La marquise eut l'air de se faire violence pour ne pas étouffer de rire du plus loin qu'elle entrevit le vertueux gérant. Par contenance, elle se mit à faire des nœuds. Madame la marquise avait échangé sa robe du matin pour un peignoir blanc garni d'une échelle de ruban noir. Ses nœuds galants voltigeaient autour d'elle avec des frôlements de soie délicieux. À peine le gérant fut-il entré, qu'elle l'invita à prendre un fauteuil auprès de la Chinta en lui disant « Monsieur Platon, j'ai de grands remerciements à vous faire. » « Madame la marquise est contente, » fit ingénument Platon. « Tant mieux, j'avais peur que les chevaux ne la versassent. » « Cela aurait bien pu m'arriver, sans votre petit postillon mulâtre, que vous me présenterez demain, car vous me l'avez promis, monsieur Platon, mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit. »« J'entends. Madame la marquise va me dire que la collation de monsieur Printemps a eu du succès. En cette saison, on fait ce qu'on peut. »« Vous vous moquez. Ce n'est nullement de ma table qu'il s'agit. C'est de la table de Popo, mon singe. »« Je me flatte, madame, que rien ne lui manque. » « Oh, je le crois bien, il ne se plaint pas. Vous faites les choses admirablement pour lui. Nous l'avons trouvé achevant ce perroquet. » La marquise écarta les feuilles de laque d'un beau paravent chinois qui cachait Popo. le singe apparut à l'œil de Joseph Platon comme une monstrueuse représentation du vautour de Prométhée. Les plumes de l'infortuné perroquet jonchaient le tapis. « C'est mon perroquet !» s'écria Platon, éperdu. « Comment, votre perroquet ?» reprit la marquise. Il y eut un éclat de rire si communicatif dans le salon que toutes les vitres le répétèrent. La pose superbe de Popo, son dédain et une sorte de satisfaction intérieure qui perçait jusque dans son silence allumèrent encore plus la fureur du gérant. Silencieux et triste, il se contenta de ramasser les plumes de l'oiseau et de les serrer dans sa poche de l'air d'un amant qui ramasserait les morceaux d'une miniature chérie. « Ce pauvre ami, » murmura intérieurement Platon, « qui me répétera maintenant le nom de Rosette ?» Il jeta au singe un coup d'œil oblique qui voulait dire « Tu mourras ». Popo fit une gambade, Madame de Langeais sourit. « Monsieur Platon, les devoirs d'un gérant d'habitation n'autorisent pas semblable low-cost. Si Popo n'eût point rencontré ici votre perroquet, il ne lui aurait point fait ce mauvais parti. Mais le maître d'hôtel, ayant jugé convenable de le lui présenter avant son dîner pour qu'il fisse connaissance, Popo a pris cela pour un acompte. Inclinez-vous, Popo. Pour vous punir, on ne nous servira plus que des ananas. » Et du bout de ses doigts rosés, Madame la marquise envoya au nez de son singe la plus adorable des pichenettes. « Ne m'avez-vous pas écrit, monsieur Platon, » reprit-elle négligemment, « pour me prévenir d'un vol, un négrillon que vous devez châtier, je crois. J'entends, je veux que pour le baptême de mon cher Maurice, vous lui fassiez grâce. Il a devancé votre clémence, madame la marquise. Il a pris la fuite vers les grands chaos. La fuite? Oh! Alors qu'on le poursuive. Que l'on crève plutôt 20 chiens pour le ressaisir. Je connais le prix d'un nègre, monsieur. » Celui-là avait-il la peau frottée d'huile de palme? Était-ce un guinéen ou un créole? L'a-t-on acheté avec sa mère? Parlez! Il faudrait peut-être punir la mère. Elle dirait la route, caprice de fugitif. Battu ou mis en prison, monsieur, j'ai vu ce moyen-là réussir à la Guadeloupe. Croyez, madame la marquise, que c'est la première et la dernière fois. C'est trop d'une, monsieur Platon. Vous ne savez pas vous y prendre, j'en suis sûr. Un esclave, c'est un revenu fixe, annuel, et vous ne voulez point, je pense, priver votre maître de ses revenus. Je gage que vous surchargez la négraille. Le difficile, monsieur, est de conserver un nègre en le nourrissant peu et de le faire travailler sans l'épuiser. Je vous ferai donner un excellent mémoire de France qui a paru là-dessus. Tenez-vous prêt, je visiterai demain les cases. Madame de Langeais laissa le contremaître anéanti de son ton et de sa logique. Dans la colonie la plus florissante de l'univers, comme on nommait encore Saint-Domingue, à l'époque de ce récit, l'arrivée de cette exigeante maîtresse s'était bien faite pour effrayer une conscience de gérant aussi peu en ordre que celle de Joseph Platon. Il affecta toutefois une certaine assurance dans le oui résigné qu'il prononça, et sortira, après avoir promis à Madame de Langeais d'être exacte et de lui présenter dès le lendemain, à sa visite dans les cases, le jeune mulâtre, futur valet de chambre de Popo, à qui il se jura bien de donner de tels conseils pour l'éducation du singe que le coupable animal mourut avant 15 jours. Il avait paru plus cruel au gérant de perdre son perroquet que Zao.